Pour la chronique environnement aujourd'hui, je reçois Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste et coordonnateur de projet au COBALI, un organisme qui veille à la protection des lacs et des cours d'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Aujourd'hui, un sujet plutôt léger, Pierre-Étienne, tu vas répondre à certaines grandes questions sur diverses espèces de poissons.
Oui, salut Carl. Ben oui, on va expliquer certaines caractéristiques des poissons ce matin. Des fois, ça peut être un peu intriguant. Puis on va commencer avec une référence à la célèbre chanson de Passepartout, « Les poissons gigotent, les poissons barbotent ».
Tu veux-tu nous en chanter un petit extrait? C'est une blague.
Rappelez-vous, il y a une phrase dans cette célèbre chanson-là qui dit « Au fond de la rivière, il n'y a pas de lumière ». Les poissons voient clair dans l'eau.
Je sais pas à quel point tu me donnes le goût de chanter ce matin. Oui, donc on peut se demander, surtout l'hiver sous la glace ou dans les eaux très opaques, comment les poissons font pour si bien voir.
Ben oui. Ben en fait, c'est parce qu'ils sont aidés par une espèce de sixième sens qui est autre que leurs yeux, que nous on n'a pas, Carl, qu'on appelle la ligne latérale. Fait que c'est pas tellement apparent quand on pêche un poisson qu'on le regarde, mais le long, dans le fond, du poisson, là, entre la tête et la queue, il y a ce qu'on appelle la ligne latérale. Puis dans le fond, c'est quoi? C'est des très nombreux récepteurs nerveux, si tu veux, qui vont informer le poisson là, sur tout ce qui se passe autour de son corps, tu sais, les mouvements de l'eau autour de son corps. Puis ça, ça lui permet de tout capter là, les subtilités du courant, puis adapter sa nage, tu sais, avec une grande précision. Parce qu'évidemment, quand il se déplace, mais le courant change toujours, dépendamment des obstacles. Fait qu'il peut ressentir les mouvements, dans le fond, des prédateurs, ou l'inverse. Si t'es une si t'es un prédateur, ben, tu vas pouvoir localiser mieux tes proies. Fait que dans le fond, ils peuvent se faire une espèce de carte mentale un peu des obstacles aussi, comme les roches, parce qu'ils peuvent déduire un peu selon le courant, comment ils reçoivent ça sur leur corps, mais ils déduisent aussi les obstacles qu'il y a dans l'environnement.
Donc une espèce de représentation 3D, si on veut, là, de ce qui se passe autour d'eux. Là.
En continu et très précise, fait que... Ils sont peut-être un petit peu plus habitués de nager que nous autres, un peu mieux adaptés à ça, mettons.
Est-ce qu'un poisson peut rester à la même profondeur sans avoir besoin de nager comme nous pour se maintenir?
Oui, ben c'est ça. Hein. Si chacun qui a essayé de nager sait que généralement, on a plutôt tendance à caler, nous autres, les humains. Mais si on veut, en fond, si on veut flotter, on garde l'air dans nos poumons. Puis si on veut caler, ben, aller chercher un objet dans le fond de l'eau, on a tendance à faire sortir l'air dans nos poumons. Ben, les poissons, eux autres, ils respirent pas à la surface parce qu'ils n'ont pas de poumons, mais ils ont un organe qui s'appelle la vessie natatoire.
OK.
Fait que, dans le fond, c'est comme un genre de sac qui est un petit peu une excroissance de leur œsophage. D'ailleurs, il y a certains poissons comme les carpes qui peuvent respirer un peu, ils peuvent sortir la tête de l'eau un peu, puis faire rentrer de l'air carrément dans cet organe-là. Mais pour la plupart des poissons, ils sont surtout capables de faire passer, dans le fond, les gaz de leur sang vers l'intérieur de cet organe-là, la vessie natatoire, pour le remplir d'air ou l'inverse. Et dans le fond, quand le poisson veut caler, flotter ou être à l'équilibre, ben là, il va ajuster la quantité de gaz qu'il y a dans son petit sac, comme les ballasts d'un sous-marin, un peu, si tu veux. Mm-hmm. C'est ce qui explique aussi, quand on tire un poisson qui était très creux, on le pêche, on le tire trop vite dans la chaloupe, le poisson n'a pas le temps de s'ajuster, fait que la pression qu'il y a dans sa vessie natatoire, ben, elle va diminuer rapidement. Puis à ce moment-là, les gaz qui étaient là-dedans ont tendance à prendre plus de place. Puis là, des fois, tu vas avoir la vessie natatoire qui va sortir de sa bouche. Ça peut... Il y a certains pêcheurs qui ont peut-être observé ça, malheureusement, c'est souvent chez, entre autres, les touladis, là, les truites grises, qu'on pêche un petit peu plus creux là, dans les lacs.
Question qu'on s'est déjà tous posée, Pierre-Étienne, si on prend l'espèce, la barbotte, il y a des espèces de moustaches, là. Ouais. À quoi ça sert exactement ces poils-là?
C'est ce qu'on appelle aussi les barbillons, ou la moustache, pour les intimes, là. Bon, il faut savoir premièrement que la barbotte, c'est un poisson de fond, plutôt, qui cherche sa nourriture dans de l'eau qui n'est pas toujours très transparente. Okay? Fait que les barbillons, ça lui permet de sentir les objets qui sont au fond, mais aussi de les goûter avant de les manger.
OK.
Fait que ça, c'est un peu étonnant. Ils ont des papilles gustatives sur leur moustache.
Ah oui, OK.
Ils peuvent avoir une idée de leur bouffe avant de la manger. Puis, il faut faire attention, parce que les barbottes, ils ont des épines là, super piquantes qui sont situées, dans le fond, sur la nageoire dorsale, donc sur le dos, puis les deux nageoires de devant. Fait qu'il faut faire bien attention pour quand on manipule une barbotte parce qu'on peut se piquer, ça peut faire très mal. Par contre, les barbillons comme tels, ça c'est sans danger, c'est mou, il n'y a pas de, pas de danger là, de manipuler là-dessus. Puis la barbotte, on a déjà parlé, hein, c'est le champion là, des poissons là, en termes de tolérance. Là, elle peut vivre en dehors de l'eau pendant plusieurs heures, elle est très tolérante à la pollution. Puis c'est aussi un des rares poissons qui s'occupe de ses bébés. Et on peut voir souvent des barbottes là, avec des centaines de bébés autour d'eux autres. Attention, il ne faut pas confondre, il n'y a pas juste la barbotte brune qu'on connaît le plus, là, mais il y a aussi la barbue de rivière, puis les chats fous qui ressemblent un peu, qui ont des barbillons. Ça, c'est des plus petits poissons. Mais eux autres fréquentent les eaux les plus claires. Il y en a même qui sont comme le chat fou des rapides, il est même menacé. Donc, c'est pas tous les gens de la famille qui sont aussi tolérants que la barbotte brune qu'on connaît le plus.
Je sais pas si c'est une impression, Pierre-Étienne, mais on dirait que le brochet est un petit peu plus gluant que les autres espèces. C'est-tu normal, ça? Pourquoi cette impression-là?
Ouais, c'est parce que le brochet, effectivement, si vous avez manipulé ça, c'est comme vraiment une espèce de couche là, assez glissante. Là. C'est que, dans le fond, le brochet, c'est un poisson qui vit plus dans les herbiers aquatiques, donc dans la végétation, puis des eaux qui sont plus chaudes, en général. Puis, le brochet, c'est un poisson qui bouge pas beaucoup parce qu'il chasse à l'affût, et qu'il se poste, puis là, il attend que la proie passe. Fait que ça le rend plus vulnérable aux infections puis aux bactéries qui ont tendance à plus proliférer dans ce genre d'habitat-là où tu as de l'eau plus stagnante, plus chaude. Fait que le mucus de plus, là, la couche de plus qu'il y a, ben ça lui, dans le fond, ça le protège là, contre les infections.
Il y a le doré, je trouve qu'il y a des yeux bizarres des fois sur les photos. Pourquoi?
Oui, c'est parce que les yeux des dorés sont faits pour être super performants dans l'obscurité. Hein. Fait que c'est un poisson... qui aime bien l'obscurité ou les eaux plus troubles, qui n'aiment pas la lumière, autrement dit. Donc, on appelle ça un poisson lucifuge, qui n'aime pas la lumière. C'est pour ça que dans les plans d'eau super clairs, ben, on les pêche surtout à la surface, là, soit à l'aube ou à la brunante. Puis après ça, dans la journée, il va aller plus creux là, dans l'obscurité.
OK. On est avec Pierre-Étienne Drolet pour les gens qui viennent de se joindre à nous du Cobali. C'est la chronique environnement. Puis là, je le bombarde de questions en ce moment sur différentes espèces de poissons. Puisqu'on parle de ça, de d'autres espèces aussi, j'aimerais ça te parler de la truite mouchetée, plus particulièrement de la chair. Des fois, elle est blanche. Des fois, elle est orangée. Pourquoi c'est... pas nécessairement la même couleur.
Oui, vous avez sûrement remarqué, là, ceux qui sont pêcheurs un peu de truite mouchetée, que des fois, on met ça dans la poêle, puis là, il y a une truite qui a la chair blanche, puis une truite qui a la chair plus orange, dans le même lac, la même espèce. Fait que, en fait, c'est qu'au Québec, on s'est aperçu qu'il y a deux variétés, si on veut, de truite mouchetée. Il y a comme une sous-population qui vit en eau plus profonde dans nos lacs, puis une qui est associée plus au littoral, donc qui est en eau moins profonde. Fait qu'il y a eu des recherches qui ont démontré que l'évolution est comme à l'œuvre un peu là, chez la truite mouchetée parce que ces deux populations-là ont tendance à se reproduire de façon un petit peu décalée dans le temps. Mm-hmm. Fait qu'ils se reproduisent entre elles. Fait que de sorte qu'avec le temps, ça pourrait peut-être donner deux espèces. Mais en gros, c'est que pour ce qui est de la coloration, là, c'est que les truites du littoral sont plus trapues. Ils ont des nageoires un petit peu plus longues pour naviguer plus efficacement dans les obstacles. Puis ils mangent davantage d'insectes. Ça fait en sorte que leur chair est plus blanche.
OK.
Puis les truites d'eau plus profonde sont... eux autres, ils mangent plus du plancton, des petites crevettes. Puis les petites crevettes, ben ça, c'est riche en carotène. Donc, c'est un pigment qui rend la chair plus orangée.
OK.
Fait que c'est ce qui explique là, la coloration de la chair dans nos truites de nos lacs.
Peut-être en terminant, nous expliquer c'est quoi les principaux poissons qui ont été introduits chez nous dans les Hautes-Laurentides et qu'il faudrait éviter de propager là, dans d'autres lacs. Je pense que c'est un dossier important, ça.
Oui, il y a des poissons qui se sont invités, si on veut, dans les Hautes-Laurentides. Il faut juste les nommer pour que les gens sachent que ce n'est pas des espèces qui sont indigènes dans nos régions. Donc, on veut éviter de les transférer d'un lac à l'autre. Donc, il y a les achigans, qui sont bien connus quand même, le masquinongé, le crapet de roche, la marigane et aussi les truites brunes et arc-en-ciel. Donc, c'est toutes des espèces qui ont été introduites dans la région.
Pierre-Étienne Drolet, ça a été un plaisir encore une fois pour la chronique environnement. Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste coordonnateur de projet au Cobali. On se retrouve au mois de mars déjà.
Salut, à la prochaine.
Bye bye.